d'après le chef-d'œuvre d'Albert Camus. Art de la mise en scène, chaleur des aquarelles, richesse des décors, Jacques Ferrandez offre une relecture passionnante du roman de Camus sans en épuiser le mystère. L'étranger par Jacques Ferrandez, une bande dessinée France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
Il y en a qui sont intéressés par l'annonce d'Elisabeth II derrière la vitre, mais pour l'instant c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Sarkozy l'avait rêvé, Hollande l'a fait. Une loi qui semblait être en bonne voie d'adoption a été purement et simplement squeezée, la loi d'amnistie pour les militants syndicaux. Je suis pacifique, je fais de nombreuses manifestations, mais je pense que les travailleurs qui défendent leur survie quand ils perdent leur emploi peuvent être effectivement des fois tellement en colère qu'il peut y avoir des débordements.
Le patron du bâtiment au Bangladesh qui s'est écroulé en tuant 200 des esclaves modernes qui y travaillaient a été arrêté par la police. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Nul doute que les patrons des multinationales qui faisaient fabriquer dans ce même bâtiment leurs produits à moindre frais seront bientôt eux aussi inquiétés par la justice. Comment ça, je suis naïf? Pourquoi vous dites que je suis naïf?
Oui, bien, Liliane de Dijon, je réponds à l'interrogation de Daniel Mermet. La grève de 6 jours est-elle à l'origine de la baisse d'audience de France Inter? Pour une bonne part, je le pense, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir entendu les raisons de cette grève, de cette longue grève. Vous vous dites une radio de service public, mais à la moindre occasion, une poignée se met en grève. Pourquoi? Alors que les radios privées maintiennent leur service. En ce qui me concerne, à l'occasion de cette longue grève, j'ai découvert des émissions intéressantes chez vos confrères de RTL ou Europe 1. Que je vais écouter quand je me barbe sur France Inter, ou que je trouve les entretiens avec des politiques bien trop orientés. Je vous trouve à ce sujet bien moins caustique quand vous interviewez un politique PS qu'un politique UMP, et je m'interroge donc sur la neutralité du fait journalistique. Voilà.
Bonjour. Alors, ce matin, comme tous les matins, nous avons eu le droit à M. Beitou, qui nous fait toujours le même discours, quasiment inchangé tous les matins. Et d'habitude, on a aussi le droit à Dominique Seux et à encore un autre, là, Guillaume Rouquette. Voilà. Et quand vous avez entendu ces trois-là, vous comprenez pourquoi France Inter a perdu 8% ou je sais pas combien d'audience de tous les travailleurs qui, avant d'aller bosser, n'en peuvent plus d'entendre le catéchisme de l'austérité, le catéchisme des dépenses publiques qui grimpent sans arrêt alors qu'elles ont baissé de 15%. C'est insupportable. Et en plus, quand on appelle pour interpeller le mec qui passe à Allo le matin, il n'y a pas moyen en fait. Ils préfèrent rester entre eux. Voilà.
Alors comme ça, le syndrome du chiffre a frappé à la base si j'y suis. J'entendais donc ce vendredi 26 avril vous parliez des chiffres donc d'audience de radio. Et subitement, le chef de l'émission, donc Daniel Mermet, dit « Oui, on peut remettre ces chiffres en cause, il y a eu la grève, mais nous on a fait la grève. » Et puis subitement, aux alentours d'une phrase, dire « Moi ça fait tant d'années que je travaille effectivement à France Inter et on va remonter la pente ». C'est curieux puisque quand même vous passez toute l'année à dénoncer dans d'autres milieux les sondages et tout ça, et puis subitement vous êtes en sarc-boute sur des chiffres qui ne veulent rien dire de médiamétrie, car aux chiffres quand même.
Eh merci de nous remonter un peu les bretelles là, sur les chiffres, c'est vrai, en parlant de ces résultats d'audience et de la polémique sur les résultats d'audience, c'est vrai qu'on accepte ces chiffres comme argent comptant, alors qu'on ne sait pas trop dans quelles conditions ils sont produits. C'est vrai que la plupart du temps, on dit toujours que c'est des sondages qu'il faut prendre avec des pincettes. Et c'est vrai que là, on oublie de les prendre avec des pincettes. Surtout que ce sont, après tout, des chiffres qui indiquent des quantités, pas des qualités. Et il y a quelque chose d'un peu triste, effectivement, à constater qu'il n'y a plus que les chiffres qui comptent. Peut-être un manque de souffle, un manque d'ambition, un manque de grandeur. On le verra, tiens, pour le 50e anniversaire de la création de la Maison de la Radio. On écoutera le discours du général de Gaulle lors de cette inauguration. Je pense que ça illustrera ce que j'essaye de vous dire à l'instant sur le souffle. Et alors du coup, ben, nous voilà alignés sur les objectifs des radios commerciales, c'est-à-dire la quantité d'auditeurs, et c'est normal. Ils ont pour but de vendre des paires d'oreilles à des annonceurs, alors que nous, ben, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire ça. Pas du tout. Bien sûr que les chiffres d'audience sont importants, mais enfin, on aimerait que ça ne soit pas le seul but. Ça ne l'a pas toujours été. Et c'est ainsi pour l'instant. En tout cas, on a reçu énormément de messages à ce sujet. Je vous conseille de vous adresser directement à Radio France, à France Inter. Il y a une direction à France Inter, à laquelle vous pouvez adresser vos observations, vos analyses, vos critiques et vos approbations aussi, bien évidemment. N'oubliez jamais que cette radio est à vous, c'est vous qui la financez, moi aussi d'ailleurs, à travers mes impôts, ma taxe d'habitation, bien je me paye. Voilà, tout ça est à vous et ce débat est intéressant. Et puis concernant les critiques que vous faites de telle ou telle ou de telles émissions, eh bien, adressez-vous directement aux émissions. Je suis sûr que mes chers confrères se feront un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, une phrase qui revient tout le temps, c'est le retour des années 30. On entend ça dans tous les débats. Il n'y a pas un dîner en ville sans qu'on entende ce leitmotiv, le retour des années 30. Et en effet, on peut peut-être s'interroger avec un petit frisson dans le dos sur le fascisme. On adore ça, se faire peur. On n'a pas forcément toujours tort. Et est-ce que le fascisme sera à nouveau la solution à la crise du capitalisme? Il n'y a de pas s'inquiéter quand même en ce moment si on fait un petit tour de ce qui se passe un peu partout en Europe. Vous vous souvenez, on avait fait ce tour avec notre ami Dominique Vidal. À l'heure où la gauche non libérale, ou la gauche non ultralibérale, disons, ne répond plus au désarroi des classes populaires, le Front National s'est déguisé en parti anticapitaliste, ça trompe pas mal de monde, semble-t-il, évidemment, c'est très décourageant pour la gauche non libérale. Et on va passer cette heure avec un très grand historien qui s'appelle Zev Sternel, que vous connaissez sans doute déjà, qui est israélien, qui est l'auteur d'un ouvrage qui ressort ces temps-ci, intitulé « Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France ». C'est 30 ans de travail sur le fascisme en France. Et Zev Sternel, depuis au moins 30 ans, polémique avec ses congénères historiens sur le fascisme français. Ce qui est dans nos mémoires, dans notre doxa, c'est « Ah ben le fascisme, et ben voilà, c'est italien. » Et puis c'était en Espagne, et puis c'était en Allemagne. Mais la France n'a été épargnée pour telle ou telle bonne raison. Il y a eu la séquence Vichy. Mais non, c'est pas... Or, Sternel dit tout à fait autre chose. Et c'est pour ça qu'on a voulu le rencontrer et qu'il vous parle aujourd'hui de la longue histoire, du temps long du fascisme français, avec bien sûr la question de départ, y a-t-il un lien entre cette longue histoire du fascisme français et le Front National aujourd'hui? N'oublions jamais que dans Nazi, il y a national-socialisme et il y a socialisme, et que dans la voix et le discours de Marine Le Pen, aujourd'hui, il y a les grands élans socialistes, il y a la prétention d'incarner un parti, d'être un parti ouvrier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la classe populaire, faute de trouver les porte-paroles, faute de trouver un débouché politique comme autrefois, hier à gauche ou à l'extrême gauche, eh bien, tout simplement, mécaniquement pourrait-on dire, va vers le Front National. C'est quelque chose d'assez préoccupant quand même, assez préoccupant pour qu'on passe cette heure avec cet historien israélien, qui par ailleurs est un des fondateurs du mouvement Shalom Arshav. Mais on ne parlera pas cette fois-ci d'Israël, faute de temps. On essaiera peut-être d'aborder ce sujet à la fin de l'heure, s'il nous reste un peu de temps. Mais d'abord, ce thème « Ni droite ni gauche » avec Zev Sternel. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Alors, une bonne nouvelle ce matin à la radio. Le crédit à la consommation a reculé de 5%. Donc, encore un petit effort, chers compatriotes, et bientôt, le MEDEF viendra pleurer pour qu'on augmente les salaires. Courage à tous, au revoir. Oui, bonjour, c'est Hervé Lapareil, donc Jean-Marc Hérault à Foix, des dizaines de bagnoles mises à la fourrière, des CRS dans tous les sens, dans une petite ville de 10 000 habitants. Voilà, les élus proches du peuple, encore une fois, ça fait plaisir, une bonne ambiance en ville aujourd'hui. Allez, ciao, bonne journée.
Oui, salut Daniel. Bon, je peux pas résister, donc je t'appelle. Jean-Marc Hérault visite l'Ariège. Il n'y a pas un territoire plus féodal et despotique que l'Ariège. En pleine moralisation de la vie politique, en plein débat sur le cumul des mandats, c'est une farce, mais indicible. Et le président du Conseil général, il est mis en examen pour une escroquerie aux subventions, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds. Ben, c'est l'Express qui l'affirme, le numéro 3213. Bon, pour mémoire, il a été aussi président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Hein, ça vous rappelle rien? Bon, moi je crois qu'on se moque du monde là. Allez, salut.
Salut là-bas, salut les AMG. Le 1er mai, c'est le premier mercredi du mois, et donc c'est le jour du repère de Poitiers. Et puisque c'est le 1er mai, nous parlerons du travail. Le travail, ce travail qui nous pose tant de problèmes, quand il prend tout notre temps, quand il n'est pas pour tout le monde, quand il est pénible, voire dangereux, quand une certaine morale voudrait l'imposer à tous, quand il devient inutile ou absurde. On vous invite à venir avec vos idées, vos témoignages, vos casse-croûtes et vos breuvages. Attention, le plan B étant fermé en ce jour férié, rendez-vous à 19h sous la pénétrante, là où se rejoignent la rue des Quatre Roues et la rue de la Croix-Rouge. C'était Stéphane.
Salut aux AMG Angevin. Prochain café repère, mardi 7 mai. Grand débat autour de l'église, et on ne recule devant rien. Avec, côté ciel, le CR10, centre de rencontres de dialogue interreligieux, affilié donc au diocèse. Et côté terre, l'association de la libre pensée du Maine-et-Loire. Notoirement, vous le savez, anticlérical. Nous invitons donc tous les fidèles de là-bas, si j'y suis, à se joindre à la grand-messe, mardi 7 mai au bar Le Challenge, 12 place Main d'Esfance, à partir de 19h. Tout le monde est bienvenu. Vous venez avec vos signes ostentatoires de ceci ou de cela, si ça vous fait plaisir. Ciao.
L'extrême droite est toujours là, mais l'extrême gauche, elle a disparu. Il n'y a pas vraiment d'extrême gauche aujourd'hui en France. Si on regarde le Parti communiste, le Front de gauche, vous savez, par rapport à un passé relativement récent, ils se situent tous un peu à la droite de la SFIO de Léon Blum. La SFIO de cette époque était beaucoup plus radicale dans ses conceptions sociales que naît aujourd'hui le Parti communiste, qui ne remet pas vraiment en cause les structures sociales telles qu'elles sont. Il veut améliorer le sort des travailleurs, il veut améliorer les rapports sociaux, mais ne les met pas en cause.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Zev Sternel.
Flight number 2, arriving from New York.
Son premier défilé du 1er mai, Marine Le Pen avait donné ses consignes. Interdiction d'afficher tatouage, croix celtique ou tout autre symbole skinhead.
La chaîne parlementaire, 2 mai 2011.
Derrière Jean-Marie et Marine Le Pen, on a préféré mettre en avant les jeunes. Sur leur drapeau, liberté, un des nouveaux thèmes de campagne de la présidente du Front. Les jeunes de la Marine martèlent leur slogan, version light. Pourtant, un peu plus loin, les tatouages ou autres signes dépassent des t-shirts. Pas facile pour le parti d'extrême droite de se débarrasser de ces historiques.
Je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Moi, ça fait 20-25 ans que je fais des défilés. J'ai fait des défilés avec des mecs qui avaient des bombers, avec crâne rasé. Et j'ai jamais vu de quoi que ce soit de mal avec eux. Maintenant, si vous voulez, on va avoir du mal, bon, bah, on va en banlieue, on va en trouver du mal.
Autre volonté affichée, à la tribune, devant la statue de Jeanne d'Arc, avec un discours très social, Marine Le Pen s'affirme comme candidate des classes populaires.
Car la mondialisation C'est le nivellement du monde. C'est cet esclavage des temps modernes. Le transfert de population d'un continent à l'autre, constituant ainsi l'armée de réserve du capitalisme qui permet à quelques grands patrons d'exploiter les travailleurs français.
L'offensive sociale de la présidente du FN semble porter ses fruits. Selon un récent sondage, elle recueillerait près de 36% des intentions de vote des ouvriers au premier tour.
Alors Zev Sternel, je suis très content de vous rencontrer.
Merci.
J'ai sous les yeux un bouquin qui fait 1072 pages. 1072
beaucoup pages. De papier.
Beaucoup de papier, beaucoup d'années de travail. Ça s'intitule « Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France ». Et vous travaillez sur ce sujet depuis de très nombreuses années. Et votre travail fait polémique. Pour résumer, vous allez me reprendre immédiatement. Vous dites, oui, la France, les Français s'imaginent avoir été vaccinés, immunisés contre le fascisme, si on prend l'histoire du XXe siècle. Le fascisme, c'est ailleurs, c'était en Allemagne, c'était en Espagne, etc. Mais nous, oui, bien sûr, on a une petite période, Vichy, etc. Mais enfin, voilà, maintenant, cet animal-là, ce monstre, s'est éloigné. Si on regarde la presse ces jours-ci, on voit beaucoup d'inquiétudes par rapport au Front National. Et on voit aussi beaucoup de gens qui sont rassurés par le Front National, puisqu'on dit, oui, finalement, ce Front National, dans la version Marine Le Pen, est acceptable. Il y a une dédiabolisation du Front National. Alors, entre fascisme et Front National, quel lien peut exister? Y a-t-il un lien? Vous allez nous le dire. Mais d'abord, il faudrait que vous reveniez un petit peu, en quelques mots, on a peu de temps, sur ce long travail et comment vous avez pu mettre en lumière ce fascisme français.
Ça s'est passé en étapes. Ça a commencé par ma thèse de doctorat sur Maurice Barrès. La suite, c'était la droite révolutionnaire, c'est-à-dire c'est un concept que j'ai créé, si vous voulez, pour montrer que il existait en France, comme ailleurs, mais ici nous parlons de la France, une droite qui, elle, n'entrait pas dans le cadre des trois droites traditionnelles dont avait parlé mon maître, René Raymond. Et lorsque je suis arrivé dans l'entre-deux-guerres, c'était ni droite ni gauche. De Barrès, je me suis aperçu que, tout d'abord, la Grande Guerre n'a pas créé le fascisme ni l'extrême droite. Je me suis aperçu qu'il existait de continuité à partir des années 80 du 19e siècle, lorsqu'émerge une droite nouvelle, une droite révolutionnaire avec des éléments prolétariens, mais anti-marxiste et anti-libéral. C'est alors que se forge cette synthèse d'anti-marxisme et d'anti-libéralisme qu'on appelle souvent matérialisme. Le marxisme et le libéralisme sont des matérialismes. Pourquoi? Parce que pour le marxisme, comme pour le libéralisme traditionnel, l'individu est l'objectif final de toute action politique et sociale. Il diverge sur les voies à y parvenir, mais le bien de l'individu, c'est l'objectif aussi bien des libéraux que des marxistes. Les nouveaux venus, eux, ils pensent que la nation précède l'individu, que l'individu existe pour le service de la nation, de la collectivité, et non pas la collectivité pour le service de l'individu. Alors, puisque vous m'avez posé cette question, je me permets de rappeler la définition de la nation telle qu'elle est donnée par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Au milieu du XVIIIe siècle, la nation est définie en deux lignes. La nation, c'est un ensemble, une grande multitude de peuples, on dit, qui vit sur un même territoire, dans des frontières communes et soumis au même gouvernement. Point final, rien d'autre. On ne parle ni d'histoire, ni de culture, ni d'ethnie, ni de religion, rien. Une définition politique et juridique de la nation. C'est l'acte de naissance du citoyen.
On ne parle pas de sol, on ne parle pas de sang.
Rien. C'est l'acte de naissance du citoyen. Et évidemment, la déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne découle de cette définition. 100 ans plus tard, c'est l'inverse. 100 ans plus tard, on parle des droits de la nation. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Barrès. Et c'est ce que j'ai trouvé ensuite sur ces révoltés du tournant du siècle, du début du XXe siècle, en révolte contre la tradition des Lumières, la tradition des Lumières françaises. Et cette tradition-là, elle est battue en brèche et violemment dès avant la Première Guerre mondiale, 25-30 ans. Une nouvelle révolution se met en marche, une révolution intellectuelle, morale, mais aussi une révolution technologique. La révolution industrielle est déjà passée par là. Maintenant, on entre déjà dans le stade de la révolution technologique. Le monde change à une vitesse extraordinaire. Vous savez, le monde a changé au cours des 20-30 années qui précèdent la Première Guerre mondiale, plus qu'il n'a changé pendant des siècles. Et tout cela, évidemment, fait que les gens se demandent où on va. Où on va et que va être notre avenir. Et c'est là qu'arrivent ces éléments révolutionnaires qui se battent contre le rationalisme marxiste, ne laissent du marxisme qu'une sociologie de la violence, mais le contenu rationaliste hegélien disparaît. Du libéralisme, on laisse vivant l'économie libérale, mais non pas le contenu intellectuel et moral du libéralisme, ce qui fait que, à la veille de la Première Guerre mondiale, un courant intellectuel important qui entraîne des syndicalistes, qui entraîne des travailleurs aussi, mais surtout la droite syndicaliste, et qui nous dit « il n'y a pas d'alternative à l'économie libérale, mais il y a une alternative à la politique libérale et aux droits de l'homme. » C'est-à-dire, il y a une alternative au contenu intellectuel et moral du libéralisme et non pas à l'économie libérale. C'est là, vraiment, la naissance du fascisme. Et tout ça se passe avant la Première Guerre mondiale. C'est mis en branle en France parce que la France était la société libérale la plus avancée du continent européen. Et tout ce monde-là, ensemble, fabrique, si vous voulez, cette idéologie nouvelle, souvent brillante, et qui devient une force politique à la faveur de la Première Guerre mondiale et des crises qui suivent la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre fournit, si vous voulez, la masse critique, la masse sociologique qui permet de transformer une idée en mouvement et ensuite en régime.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors?
Zeb Sternel, je voudrais qu'on revienne sur un mot là, qui mériterait d'être souligné, c'est quand vous dites libéral. Ce mot libéral aujourd'hui, on confond libéral et néolibéral. Libéral aujourd'hui, ça veut dire l'économie financiarisée d'aujourd'hui. Les idées libérales, on ne voit pas très bien ce que c'est. Ça s'est éloigné un petit peu. Donc, il faut peut-être un peu préciser ce que vous entendez par libéral. Marxisme, on a compris. Et puis, alors, évidemment, il y a ce mot, cette expression qui est un court-circuit. Droite et révolutionnaire. Pour nous, ici, en France, et puis pas seulement, révolutionnaire, ça veut dire gauche. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux notions?
Le terme libéral et néolibéral, ces termes-là, il ne faut pas les confondre. Mmh. Le libéralisme et le néolibéralisme, ce sont deux choses, non pas totalement différentes, mais ce n'est pas du tout la même chose. Vous savez, les grands libéraux du 19e siècle, tout d'abord, peut-être le plus important d'entre eux, Tocqueville, mais aussi Benjamin Constant, concevaient le libéralisme comme la libération de l'individu. Libération de l'individu des entraves de l'Ancien Régime, mais aussi des entraves de l'histoire, des entraves de la culture aussi.
De la religion éventuellement.
De la religion aussi. Le libéralisme signifiait un monde où les hommes se gouvernent eux-mêmes, où ils fixent eux-mêmes leurs objectifs. Le libéralisme signifiait que la démocratie serait une démocratie libérale, où le libéralisme serait démocratique, dans ce sens que la liberté acquise devait maintenant être une liberté pour tous, pas seulement pour une minorité, mais la liberté pour tous. Ce qui, finalement, avait déjà montré le chemin à ce qui allait être le socialisme démocratique ensuite. Le néolibéralisme, c'est autre chose. Le néolibéralisme nous dit que les inégalités sociales, économiques, sont naturelles, en fait. Les hommes sont inégaux d'une manière naturelle. Et que changer les mécanismes du marché, ne pas permettre aux mécanismes du marché de fonctionner, c'est une révolte contre la nature. Ça ne peut que mener au désastre, c'est le goulag ou Auschwitz, c'est ce qu'on vous dira.
Voilà.
On vous dit déjà que les Lumières françaises, ou les Lumières franco-kantiennes, ont creusé la voie vers le goulag et Auschwitz. Il n'y a rien de plus idiot, il n'y a rien de plus injuste que cela. L'idée que notre société est la seule société possible et imaginable est une idée qui ne serait pas venue aux hommes du XVIIIe siècle. Elle ne serait pas venue aux libéraux du XIXe siècle. Aujourd'hui, on nous dit, le monde tel qu'il est le seul possible. C'est ça, fondamentalement, l'idée néolibérale. Et aussi que la société, Madame Thatcher nous a dit, la société, ça n'existait pas. Il n'y avait que des individus.
C'est ça. Donc, il y a une contradiction totale. C'est-à-dire qu'il y a une usurpation ou une perversion entre ce libéralisme-là. Vous n'avez pas évoqué Adam Smith, mais on aurait pu tout à fait le faire. Il y a une confusion sur Adam Smith de la même façon. Hein, il est pris en otage par les néolibéraux pour quelques phrases ou des chapitres tout à fait restreints de son œuvre, alors qu'il était un libéral au sens où vous l'indiquez. Donc là, il y a un jeu de mots qui a permis à ce néolibéralisme d'arriver avec la caution historique des Lumières.
Le néolibéralisme a été surtout servi, bien sûr, par la chute de l'Union soviétique, par les crises économiques des années 70 et 80, la fin des Trente Glorieuses. Le néolibéralisme est arrivé en mettant en cause l'État-providence. Moi, je n'aime pas beaucoup cette expression, l'État-providence, c'est le welfare state anglais.
Oui, parce que dans Providence, il y a quelque chose de religieux, de miraculeux, qui est un peu gênant.
Voilà, et c'est surtout, c'est un peu péjoratif. Mais l'État, tel qu'il a été refondé, si vous voulez, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'État qui se considèrent comme responsables du bien-être des citoyens, non seulement de leur sécurité extérieure, non pas les défendre contre l'ennemi extérieur, non seulement l'ordre public, mais le bien-être. Et surtout, évidemment, vous savez, on comprenait bien, déjà, au milieu de la guerre, en 1943 déjà, les Britanniques se préparaient à introduire la grande révolution sociale qui est venue après la Deuxième Guerre mondiale. Révolution sociale, c'est un mot un peu fort, mais vous savez, pour des gens qui tout d'un coup obtiennent l'éducation gratuite, la santé et tous les bénéfices que l'on connaît bien en France, pour eux, c'était une révolution. La vie a changé. La vie a changé. Parce qu'on avait compris qu'on ne pouvait pas, à la fin de cette guerre terrible, revenir aux affaires comme si rien ne s'était passé. Et c'est là que s'est mis en place cet état que l'on connaît en France, avec la sécurité sociale, etc., qui, dans les années 70, commence à être mis en cause. On nous dit... Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. L'État ne doit pas s'occuper du bien-être du citoyen. Il doit permettre aux citoyens de se réaliser eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se lancer dans le monde des affaires, ceux qui sont capables de réussir tout seuls, il faut leur permettre de le faire. Il faut créer... Oui. Des conditions dans lesquelles ils puissent se réaliser eux-mêmes, mais on ne peut pas investir toute la puissance sociale, toute la puissance économique d'un peuple dans un effort de faire avancer les moins bons, les moyens, les pauvres. On nous dit, si les gens sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas été capables de réussir leur vie.
C'est leur choix.
C'est leur affaire à eux. C'est leur affaire à eux. Combien de fois on a entendu chez Mme Thatcher, chez M. Reagan, comment de fois on a entendu dire, vous savez, la charité, c'est l'Église, c'est l'affaire de l'Église. La charité, ce sont des associations volontaires. La charité, ce n'est pas l'État qui doit distribuer la charité. Et la charité, pour eux, c'était quoi? La charité, c'est l'éducation, la charité, c'est la santé. La charité, c'est le logement. La charité, c'est de permettre aux gens de vivre un peu mieux, de les aider à vivre un peu mieux.
Assemblée du Parti conservateur, Margaret Thatcher, 1975.
Certains socialistes semblent penser que les gens ne sont que des numéros, que des chiffres dans l'ordinateur étatique de l'administration. Nous croyons qu'ils devraient être des individus. Nous sommes tous inégaux. Personne, Dieu merci, n'est identique à quelqu'un d'autre, même si les socialistes peuvent prétendre le contraire. Et nous croyons au droit de chacun d'être inégal. Mais pour nous, chaque être humain est également important. Un homme a le droit de travailler comme il veut, de dépenser ce qu'il gagne, de posséder sa propriété, d'avoir l'État pour serviteur et non pour maître. Ce sont là les héritages britanniques. Ils sont l'essentiel d'une économie libre. Et de cette liberté dépend toutes les autres.
Merci beaucoup Marine Le Pen de nous avoir rejoints.
BFM.
Et donc je vais d'abord évidemment commencer avec vous par l'actualité principale, cette disparition de Margaret Thatcher.
8 avril 2013.
Détestée ou encensée, est-ce que c'est un modèle pour vous?
Non, ce n'est pas un modèle, mais c'était un personnage. Et je vous rappelle qu'elle était d'origine modeste et qu'elle était une femme. Et que malgré cela, elle a probablement plus fait contre peut-être l'injustice faite en politique à l'égard de ceux qui sont d'origine modeste et les femmes que n'importe qui d'autre. Bon, en cela, c'était déjà remarquable. Et puis, elle a marqué son temps et évidemment, et la scène mondiale politique. Bon, on peut tout dire, mais on ne peut pas lui retirer ça. Elle a notamment contribué à l'effondrement du communisme dans l'Europe de l'Est, et c'est la raison pour laquelle Lech Walesa lui a rendu
hommage aujourd'hui, absolument.
Un bel hommage. Bon, et puis, elle avait une qualité à mes yeux, c'est qu'elle s'opposait à l'Union européenne, au fédéralisme européen, et qu'elle défendait l'intérêt exclusif de la Grande-Bretagne et du peuple anglais.
Voilà une Marine Le Pen, admiratrice de Margaret Thatcher, qui fut vraiment l'adversaire radical, l'ennemi des classes populaires, des classes ouvrières britanniques, et qui, il y a un instant, se disait la grande défendresse du monde du travail. C'est l'une des acrobaties doctrinale du Front National. C'est un fonds de commerce, mais il y a aussi des fonds de commerce qui ressemblent à des magasins à rayons multiples. On est avec Zev Sternel, ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France.
Vous savez, ça a été vraiment un désastre qui aujourd'hui fait que les sociétés occidentales sont infiniment plus égalitaires que ne l'étaient un demi-siècle. Et c'est vrai aussi bien en France qu'ailleurs. C'est vrai dans le pays d'où je viens, qui était un des pays les plus égalitaires, une des sociétés les plus égalitaires il y a un demi-siècle, qui est aujourd'hui une des sociétés où les égalités sont les plus dures, les plus graves, les plus profondes. Et c'est tout à fait extraordinaire, non pas parce que ça s'est passé, mais parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de force politique qui puisse se dresser et dire « cette société telle qu'elle est, elle est injuste ». Qui a aujourd'hui le courage de dire que la société telle qu'elle est doit être changée ? Que cette société-là est mauvaise, elle est injuste, elle produit les inégalités, elle creuse les inégalités de telle sorte qu'il faut y mettre fin. Vous savez, Tocqueville, au milieu du XIXe siècle, pensait que la Révolution française s'est produite parce que la condition de la paysannerie française à la veille de la Révolution, au XVIIIe siècle, était pire qu'au XIIe ou XIIIe siècle. Et d'autres historiens de la Révolution, le Britannique Carlyle, qui était un conservateur, qui n'aimait pas les Lumières, il avait compris que la Révolution a été faite par ces gens en haillons au XVIIIe siècle, ces paysans crevant de faim. Alors, aujourd'hui, on ne crève pas de faim. Pas encore, en tout cas. Mais une chose est certaine, c'est que l'idée que ce monde tel qu'il est n'est pas celui que les néolibéraux nous montrent, mais que ce monde mène vers quelque chose de bien plus mauvais que ce qui existe encore, cette idée commence à faire son chemin.
Zev Sternel, on continue. Et je voulais qu'on revienne sur le Front National. Aujourd'hui, l'essentiel de votre travail d'historien aura été consacré au fascisme en France. Je rappelle le titre de votre bouquin qui ressort en poche folio histoire. Il faut avoir des grandes poches, hein, parce que le bouquin fait 1000 pages. Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France. Ouais, qu'on revienne maintenant entre ce fascisme français et le Front National aujourd'hui. On a deux époques dans le Front National, le père et la fille. Et aujourd'hui, la fille, elle a normalisé le Front National. Elle est tout à fait dédiabolisée, comme on dit. Son parti est dédiabolisé. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle emprunte beaucoup d'idées à la gauche radicale, la gauche anticapitaliste, contre la finance dérégulée, contre les privatisations, pour un meilleur équilibre capital-travail, pour l'intervention de l'État, etc.
Je dois évoquer devant vous le plus grand racket de tous les temps.
Marine Le Pen.
Celui des marchés financiers et des banques.
16 avril 2012.
Oui, mes chers compatriotes, je vous demande de bien m'écouter. Ce que je dis, je suis la seule à le dire, la seule à en parler, la seule à oser proposer un changement radical pour nous libérer des marchés financiers et des banques rapaces. Oui, tout le monde le voit. La banque a pris le pouvoir. Les spéculateurs ont pris le pouvoir. Goldman Sachs suscite partout de véritables coups d'État. Goldman Sachs place ses hommes à la tête des pays de la zone euro. Et Goldman Sachs place son homme à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et cela ne choque pas les belles âmes qui nous dirigent. Cela ne choque pas Nicolas Sarkozy ou Madame Merkel, parce que ce sont leurs amis. Grèce, Italie, Banque centrale européenne, les oligarques prennent le pouvoir partout dans le dos des peuples. Depuis 1973, la loi Pompidou-Giscard oblige notre État à emprunter auprès des marchés financiers et des banques à des taux de plus en plus prohibitifs. Les politiques de droite et de gauche ont méthodiquement ligoté le peuple français.
Ce qui m'intéresse dans cette question, c'est aussi un peu autre chose. J'ai fait, il y a 2-3 ans, des reportages en Allemagne, et je suis tombé sur un ex-néo-nazi, un garçon qui était un néo-nazi repenti, on va dire, et qui était un type très intelligent, et qui nous expliquait comment son mouvement néo-nazi s'inspirait très souvent des idées de la gauche de gauche, et par exemple, trouver des idées dans le monde diplomatique. Alors, je voudrais que vous nous parliez de ça, du fascisme et de la gauche, voire même du fascisme et des idées libertaires. Dans votre bouquin, vous évoquez assez souvent Proudhon. Et comment, quel lien peut-il y avoir entre, au fond, le fascisme et l'anticapitalisme ?
C'est une question difficile. Il est plus facile de la poser que d'y répondre.
C'est vous qui allez avoir tout le mérite, alors.
Mais c'est une question fondamentale. Lorsque le Front National fait appel au nationalisme, parce que le Front National, c'est tout d'abord un mouvement nationaliste, et au nom de la nation, il fait appel à ses sentiments anticapitalistes. Parce que le capitalisme, lui, est considéré comme détruisant la nation. C'était ainsi déjà à la fin du XIXe siècle. Au tournant du XXe siècle, nous avions ce phénomène-là. On considère que le capitalisme, c'est-à-dire la concurrence, la guerre au couteau, la survie du plus apte, met en danger la nation, la solidarité nationale. La solidarité nationale exige que l'on mette fin, que l'on mette fin à cette concurrence effrénée, qu'on mette fin à cette lutte de tous contre tous, qu'on mette fin à la loi du marché. Et ça, c'est important parce que beaucoup de monde trouve que c'est important et que c'est une raison d'espérer. Je dirais encore une chose. L'extrême droite est toujours là, mais l'extrême gauche, elle a disparu. Il n'y a pas vraiment d'extrême gauche aujourd'hui en France. Si on regarde le Parti communiste, le Front de gauche, vous savez, par rapport à un passé relativement récent, ils se situent tous un peu à la droite de la SFIO de Léon Blum. La SFIO de cette époque était beaucoup plus radicale dans ses conceptions sociales que n'est aujourd'hui le Parti communiste, qui ne remet pas vraiment en cause les structures sociales telles qu'elles sont. Il veut améliorer le sort des travailleurs, il veut améliorer les rapports sociaux, mais ne les met pas en cause. Il y a un demi-siècle, on parlait de la fonction tribunicienne du Parti communiste. Il fallait que le peuple ait un tribun. Le Parti communiste était le tribun du peuple. Le Parti communiste n'est plus capable de remplir aujourd'hui cette fonction de tribun du peuple. Il est trop petit aujourd'hui. C'est là qu'arrive le Front National. Il mobilise les travailleurs, il mobilise des ouvriers. Il mobilise dans les couches sociales défavorisées contre le capitalisme qui, pour beaucoup de gens, sonne leur mort. Le capitalisme, c'est les gens mis à la porte de leur entreprise, c'est le chômage. Le capitalisme, la globalisation, ça signifie qu'on prend du travail français et on l'envoie en Chine. Et c'est ça qui permet, si vous voulez, d'être à la fois nationaliste, anticapitaliste, anti-globalisation, et c'est pour ça que le néo-nazi dont vous venez de me parler lient aussi le monde diplomatique, parce qu'ils trouvent dans le monde diplomatique de la nourriture intellectuelle, spirituelle, qu'ils ne trouvent pas ailleurs, ni chez les conservateurs, ni la droite conservatrice et libérale, ni la gauche modérée. Parce qu'il faut dire la vérité, un peu partout aujourd'hui dans le monde, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Allemagne, les vraies différences entre la droite conservatrice et libérale au pouvoir, disons aujourd'hui en Grande-Bretagne, et le parti travailliste britannique est minime. La politique faite aujourd'hui par le parti socialiste français ne diffère pas énormément, elle diffère mais pas énormément de la politique qu'aurait fait une droite conservatrice libérale modérée. La question porte sur un peu plus ou un peu moins. Elle ne porte pas sur la nature de la société. Alors, ceux qui se lèvent contre l'ordre existant d'une manière beaucoup plus radicale, c'est la droite extrême, c'est le Front National. C'est le Front National qui dit ne pas accepter les règles de jeu de la démocratie capitaliste, ou du néolibéralisme. Ils n'acceptent pas cela. C'est pour ça qu'ils sont aussi anti-européens, parce qu'ils pensent que l'Europe, en fait, joue contre la nation. Mmh. Et préserver la nation, c'est préserver les solidarités nationales, c'est-à-dire de s'occuper d'abord de nos citoyens, de nos pauvres, de nos déshérités, et non pas du monde entier. C'est pour ça que le Front National exerce cet attrait qui parfois sidère, parce qu'on se dit, mais bon sang, après tout ce qui s'est passé il y a 70 ans, 80 ans, eh bien, voyez, ce qui s'est passé dans les années 30 et 40 n'était pas un accident. Ce n'est pas un accident qui est arrivé à la culture européenne. Cette partie intégrale de la culture européenne. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de raison, ça je l'ai dit il y a des dizaines d'années déjà, il n'y a pas de raison méthodologique de penser que tout cela a été enterré dans les ruines de Berlin une fois pour toutes. Mmh. Ce sont des problèmes qui sont toujours les nôtres.
Le ventre est encore chaud. C'est la fameuse phrase de Bertolt Brecht. Le ventre qui a enfanté est encore chaud.
Hommes, femmes, enfants, vieillards, déportés de toute nationalité, de toute confession, de 1933 à 1945, environ 12 millions de morts. Hommes, veillez. Il est encore fécond, le ventre, d'où est sortie la bête immonde.
Zeev Sternel, on continue avec vous. Vous avez évoqué la place prise par le Front National, une sorte d'appel d'air. Hein, voilà, il n'y a plus personne pour défendre ou pour représenter les plus modestes et les plus vulnérables d'entre nous. Donc, mécaniquement, on pourrait dire, selon une mécanique sociale, eh bien, cet électorat-là va vers le Front National. Et vous dites parce que il n'y a pas de gauche radicale véritablement en France, et la gauche actuelle en France est à la droite de la SFIO, de Léon Blum de 36. Comment est-ce que cette gauche en France en est arrivée à cette impuissance ? Là aussi, c'est une question facile à poser.
Ah, ça, c'est comme les questions précédentes. Je me demande comment vous trouvez toutes ces questions-là. La gauche est arrivée, je crois, à ce stade où elle a abandonné la volonté de changement radical. Elle y est arrivée parce qu'elle s'est alignée sur ces partis socialistes, d'abord le Parti socialiste allemand. Ensuite, elle a trouvé qu'il était beaucoup plus facile et beaucoup plus utile de gouverner plutôt au centre que de s'accrocher aux idées fondamentales de la gauche. Je crois que c'est ce qui s'est passé. La vieille SFIO est morte dans les guerres coloniales. N'oublions pas qu'il y a eu déjà le poujadisme. Il y a eu déjà le poujadisme qui était aussi un mouvement de révolte. La guerre coloniale, la guerre d'Algérie, l'arrivée du général de Gaulle, la gauche est devenue pratiquement inexistante. Elle s'est refaite le lendemain de 68, elle s'est refaite avec François Mitterrand, mais elle s'est refaite non plus véritablement en gauche, mais beaucoup plus au centre. Le Parti socialiste est devenu un parti de centre-gauche. C'est ce qui est arrivé à d'autres partis socialistes. Dans mon pays, en Israël, c'est pareil. On a vu ce phénomène-là se produire d'une manière très très claire. Eh bien, la gauche aujourd'hui, la gauche socialiste en France, c'est un parti de centre-gauche. Ce n'est pas un parti qui met en cause les structures sociales. Ce n'est pas un parti qui met en cause le système économique.
Sur le terrain économique...
France 2.
D'abord, est-ce qu'on peut savoir si le Lionel Jospin de 2002 est à peu près le même que le Lionel Jospin de 97 ou 98, par exemple? Vous devez rencontrer demain...
21 février 2002.
Entre autres, Gerhard Schröder et Tony Blair, qui sont un peu les héros de la gauche dite moderne en Europe. Vous aviez dit il y a quelques années, je ne suis pas très favorable à cette troisième voie-là. Donc est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne de crête, de dire non, notre socialisme n'est pas le même que ces socialismes-là qui se veulent plus modernistes et plus libéraux?
Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. Il est une synthèse de ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire la modernité. Il faut épouser son temps. Si nous nous enfermions, si nous n'évoluions pas, si nous n'affrontions pas les défis de la mondialisation, je pense que nous serions dépassés, débordés.
Alors aujourd'hui, on est de ce côté-là. Demain, on est ailleurs. Il n'y a pas de politique ancrée dans des convictions intellectuelle et morale claire et bien enracinée. On ne vous dit pas, non, ce monde-là, il est injuste, il faut le changer et nous allons tout faire pour le changer. Ce ne peut être plus possible dans le cadre de l'Union européenne. Alors, il se pourrait que de ce point de vue-là, Marine Le Pen ait raison. Si on veut faire quelque chose en France, il faut sortir de l'Union européenne. Mais sortir de l'Union européenne, c'est abandonner le rêve d'un monde qui dépasserait le nationalisme. L'Europe signifie un dépassement du nationalisme.
Enfin, on peut faire aussi, et des fascistes français en ont rêvé, une Europe qui serait comme une super nation.
L'Europe ne peut pas être une super nation. Elle ne peut pas être une super nation parce que ce que les fascistes ont rêvé, certains d'entre eux, qui étaient déjà beaucoup plus proches du nazisme, ce serait une Europe soumise à la loi du sang. Alors ça peut être une Europe blanche, ça peut être une Europe antisémite, ça peut être beaucoup de choses. Mais dépasser vraiment le nationalisme, cela signifie que chaque nation garde sa spécificité culturelle, mais elle abandonne une partie importante de sa souveraineté politique. L'Europe, c'est l'abandon d'une grande partie de la souveraineté politique. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut une Europe, d'accord, mais alors il faudrait qu'à l'échelle européenne, que quelqu'un nous dise, d'accord, mais cette Europe-là ne peut pas être une Europe capitaliste et néolibérale. Il faut que ce soit une autre Europe. À cette Europe, il faut donner un sens tout autre que celui qu'elle a aujourd'hui. Et cela, je ne vois pas très bien qui est capable de le faire et qui veuille le faire, qui soit suffisamment convaincu que le monde tel qu'il est, la société telle qu'elle est aujourd'hui, est tellement injuste, est tellement intellectuellement et moralement mauvaise qu'il convient de la changer. Cela, on ne le dit pas. Il faut chercher une solution, même si cette solution, on ne la trouve pas aujourd'hui, si on ne la trouve pas demain ni après-demain, l'idée elle-même doit rester vivante parce que peut-être, dans un avenir quelconque, on trouvera un système qui puisse remplacer le système actuel.
Eh Et vous vous souvenez de ce que disait Margaret Thatcher ? Nos adversaires se lèvent très tôt pour défendre leurs convictions. Nous devons nous lever encore plus tôt. Et bien nous, on va se lever encore plus tôt, de plus tôt, et même ne plus se coucher du tout. C'était un entretien avec Zev Sternel, auteur de son ouvrage « Ni droite, ni gauche, l'idéologie fasciste en France », qui est disponible dans une version augmentée aux éditions Gallimard en poche. C'est Folio Histoire. Et puis, tout à fait autre chose, quoique, dimanche prochain, c'est la grande marche citoyenne contre la finance et l'austérité et pour la 6e République. Ça partira à 13h30 de la place de la Bastille pour se rendre à la Nation. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission La Bastille, j'y suis. Également sur le site labas.org où vous pouvez réécouter cette émission et aller faire un tour sur la page Facebook de La Bastille, j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry, Lucie Acoun et Franck Adhérer ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de La Bastille, j'y suis. Au 01 56 40 37 37.
You never said your name.
Mud. You can call me Mud.
Après Tech Shelter, France Inter présente Mud, un film de Jeff Nichols, au cinéma le 1er mai. Sur une île du Mississippi, Ellis Enegbon, 14 ans, rencontre Mud, un fugitif caché dans un bateau perché sur un arbre.
You love her?
I do.
Mud croit à l'amour et attend la femme de sa vie pour laquelle il aurait tué un homme. Fasciné par sa quête romantique, les deux adolescents décident de l'aider. Retrouvez Jeff Nichols le 1er mai à 18h20 dans Downtown.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour La Bastille, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Fessenheim, autorisé à poursuivre pendant 10 ans de plus l'exploitation du réacteur numéro 2. L'autorité de sûreté nucléaire vient de donner son aval à EDF, mais l'ASN y met une condition. Il faut effectuer d'importants travaux de renforcement dans cette centrale nucléaire, les mêmes en fait que ceux prescrits en 2001 pour le réacteur, en 2011 pardon, pour le réacteur numéro 1. L'Europe est en crise de légitimité. Elle doit faire un effort pour devenir un moteur de développement durable. Dans son discours de politique générale, Enrico Letta a déclaré cet après-midi que les politiques de relance de la croissance ne pouvaient plus attendre. Et en l'occurrence en Italie, qui selon le nouveau chef du gouvernement italien se meurt à cause des politiques d'austérité. Aux parlementaires devant lesquels il s'est exprimé, Enrico Letta a promis de faire pression sur les 27 pour obtenir une politique orientée vers plus de croissance. Il a aussi annoncé la suppression des salaires des ministres qui sont aussi parlementaires. À l'issue de son discours de politique générale, Enrico Letta sollicitera la confiance du Parlement italien. C'est Hamid Karzai, le président afghan, qui le dit aujourd'hui. Oui, la CIA a bien donné de l'argent à la présidence afghane. Cela fait suite aux dernières révélations parues dans le New York Times. Informations selon lesquelles, pendant plusieurs années, donc, la CIA a livré plusieurs millions de dollars à Kaboul. L'argent aurait servi à la corruption, principalement selon le New York Times. Le virus de la grippe aviaire H7N9 a fait une 24e victime aujourd'hui en Chine. Le patient est mort à Shanghai après 12 jours de traitement sans succès. 120 cas d'infection ont été recensés en Chine, principalement dans l'est du pays. La place de l'Arc de Triomphe à Paris a dû être évacuée en début d'après-midi en raison d'une alerte à la bombe. Les services de déminage sont toujours sur les lieux. Pas question d'abandonner la réponse des grévistes de l'usine PSA d'Aulnay à l'issue du CCE aujourd'hui au siège du constructeur automobile à Paris. Ils veulent nous mettre à la porte dans des conditions de merde. C'est inacceptable, disent certains d'entre eux. Notre grève est juste, on se bat pour notre dignité. Le comité central d'entreprise de PSA devait entériner aujourd'hui le plan social qui comprend notamment la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay. Les consommateurs français se soucieraient plus de la qualité et de l'origine des produits alimentaires que de leur prix. C'est ce que révèle aujourd'hui une étude menée par Mégout.fr. Plus de 22 000 personnes inscrites sur le site ont été interrogées. En plein scandale de la viande de cheval étiquetée bœuf, la qualité reste donc le critère de choix numéro 1 des consommateurs. Juste devant la valeur nutritive et l'origine des produits, le prix, lui, n'arrive qu'en quatrième position. L'Union cycliste internationale et l'Agence française de lutte contre le dopage ont trouvé un terrain d'entente aujourd'hui. Ça concerne l'organisation des contrôles antidopage sur le prochain Tour de France. La FLD va donc bénéficier de la totale collaboration de l'UCI. Concrètement, cela signifie que l'Agence française de lutte contre le dopage pourra accéder au contenu complet des passeports biologiques des coureurs. Ils auront par exemple accès à leur localisation. Et dans le même ordre d'idées, la FLD pourra aussi mener en toute liberté des contrôles inopinés. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer. Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, la voix est libre.
Monsieur Lodéon, c'est à vous, bonjour.
Oui, bonjour Madame Gaillet, on vous retrouve à 17h pour de nouvelles informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Allez, on va prendre un petit peu l'air. Ceux qui sont en vacances, bien, on les admire, on les félicite aussi. Et si vous êtes du côté de l'île de Ré, par exemple, La Rochelle, vous voyez, le beau pont ou bien tout moyen pour y arriver à Lille, le 1er mai, en dehors évidemment de la fête du travail, du muguet, tout ce qui est traditionnel et bien, bien joyeux en général, il y a un concert de Simon Chimbris, guitariste fameux avec le Quatuor Parisi, tout aussi fameux. Eh ben, ça va être très beau, c'est à la salle Vauban de Saint-Martin de Ré, 20h30 avec Hugo Wolf, Boccherini, Giuliani, Sanz, Villa-Lobos, Barrios, Piazzolla, etc., etc. Et puis une masterclass, comme on dit beaucoup aujourd'hui, une classe de maître avec Simon Chimbris à 16h, toujours à cette salle Vauban de Saint-Martin-de-Ré. C'est le 1er mai. Et voici tout de suite Simon Chimbris, qui est un guitariste maltais et bourré de talent. Le voici dans une pièce d'un certain Juan Pernambuco, mais c'est un pseudonyme qu'il a pris, en fait, ce guitariste, compositeur, il s'appelle Juan Texeira Guimarães, en fait. Et Pernambuco, c'est certainement un hommage au bois de Pernambouc dont on fait les archers carillons. Thank you. Les sons de carillon de joie en Pernambuco, qui a pris ce nom, parce qu'évidemment, il y a le bois dont on fait les archers, et ce bois, il pousse dans l'état de Pernambuc, dont Guimarães, c'est son vrai nom, était en tout cas originaire, parce qu'il est mort en 1947. Et on va entendre encore par Simon Chimbri de la musique, mais là, c'est l'Andalousie qui est évoquée, avec les souvenirs de l'Alhambra, fameux palais mauresque, tellement beau, tellement évocateur aussi pour tous les artistes, recuerdos de la Alhambra. Thank you.